jusqu'à 19h, ça vaut le détour sur France Bleu Armorique.
Ça vaut le détour avec un invité pour Yann Brialix. Dans quelques minutes, il s'agit de Jean-Luc Le Pogam. Il est auteur, il habite du côté de Sarzeau, presque île de Ruisse, ça vient de la chance avec ce soleil aujourd'hui. Il va nous présenter son livre « L'Enfer Blanc », le premier volume d'une trilogie intitulée « Les Mange-Rêves » et publié aux éditions Slalom Place des Éditeurs. Donc on va revenir sur le parcours de Jean-Luc Le Pogam aujourd'hui, un parcours qui a été riche, qui est mouvementé encore aujourd'hui, pour ce touche-à-tout donc, avec lequel nous ferons connaissance dans les prochaines minutes.
Ça vaut le détour, l'invité de France Bleu Armorique.
Puis il y aura de la musique, on va parler littérature évidemment avec Jean-Luc Le Pogam, musique aussi avec lui parce qu'il en touche un petit peu la musique aussi. Et puis Kylie Minogue qui nous accompagne cet après-midi sur France Bleu Armorique. Sur France Bleu Armorique, dans les prochaines minutes, on écoutera aussi, je peux vous l'annoncer, Calvin Harris et Alain Bachung. Mais pour l'heure, notre invité, dont ça vaut le détour, un écrivain avec Yann Brialix.
Ça vaut le détour, l'invité de France Bleu Armorique.
France Bleu Armorique, et notre invité cet après-midi, c'est Jean-Luc Le Pogam. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour.
Merci de venir nous voir. On va parler de Bretagne avec vous, bien évidemment. Puis on va vous parler de vos nombreuses vies, parce que vous avez eu de nombreuses vies. L'actuelle, on va dire, étant celle d'un écrivain. On va voir ça. À mon avis, il n'y a pas que ça. Jean-Luc, où est-ce que vous êtes né, vous ?
Moi, je suis né à Brest. Je suis né à Brest, dans le grand ouest de la Bretagne, tout au bout de la terre.
D'accord. Vous aviez des parents qui s'intéressent à la culture, qu'est-ce qu'on avait à la maison ?
Pas spécialement. J'avais des parents, moi, la seule culture qu'on avait à la maison, c'était la musique, c'était Piaf, Brel, etc.
Parce que tu aimes la culture.
Et Yvette Horner pour ma mère, ouais. que j'adore. c'était tout ce qu'on avait en culture. Autrement, pour tout ce qui est de la culture, je me suis fait tout seul. On va dire ça comme ça.
Ouais, vous avez fait vos armes. Vous étiez quel type de jeune garçon, dites donc ?
J'ai l'impression que la question est... monsieur a étudié mon dossier. Quel type de jeune garçon ? Je vais le dire comme ça, j'étais pas compris.
D'accord, un incompris.
Voilà, j'étais un incompris. Vous voulez parler de l'école ?
Oh bah, entre
et du
autres,
collège et du lycée, où j'ai été viré partout, oui. Bah, mais je m'aperçois, en écoutant des gens à la radio ou à la télé, que des gens comme... Daniel Picouli, qui racontait une fois sa vie comme ça, qui disait qu'il avait été viré de partout. Oui, j'ai été viré de partout, ouais, c'est vrai. Comme lui d'ailleurs. C'était marrant parce que j'écoutais sa vie se dérouler et je m'apercevais qu'on avait des points, mais alors énormément de points communs. Mais c'est pas parce qu'on était des voyous, c'est parce que. Pour l'exemple, je me rappelle, j'étais en troisième, on étudiait une poésie qui s'appelait Le Buffet d'Arthur Rimbaud. Moi j'étais passionné par la poésie. Et le prof nous donne cette poésie en fin de journée, et puis il nous dit, vous la lisez chez vous, vous me direz ce que vous en pensez, ce que vous avez pensé demain matin. Mmh. On l'avait en cours le lendemain matin, et le lendemain matin, ça tombe sur moi. Donc je lui explique effectivement ce que j'avais compris de ce buffet, qui sentait bon, etc., les vieilleries. Et donc le prof me dit, mais vous êtes complètement à côté de la plaque, etc. Puis je me taisais, quoi, comme bon élève, pour une fois. Jusqu'au moment où j'ai pété un câble, et je lui dis, ouais, c'est ça, vous connaissiez bien Rimbaud, il habitait à côté de chez vous, vous étiez au même étage. Dehors.
Et vous aviez déjà des convictions, vous affirmez les choses.
Ah ouais, complètement. Ouais. Ouais. Il y avait des trucs sur lesquels il fallait me chatouiller, la musique et la poésie, il fallait pas. Sur les maths, j'étais un siricotène. Donc quand j'ai passé mon bac, il fallait pas que j'ai zéro. J'ai eu 4, j'étais heureux. Quoi.
Voilà, c'est passé.
Voilà.
C'est passé, c'était l'essentiel. Comment c'est venu justement, alors, la musique, vous me l'avez dit, hein, c'était des gens de la famille,
la musique, c'était ma famille, mais enfin bon, moi j'écoutais pas la même chose. Quoi. Mon père passait sa vie à venir baisser la musique dans ma chambre parce que j'écoutais Ange, parce que j'écoutais Led Zeppelin, j'écoutais Deep Purple, plein de gens comme ça, et ça envoyait plutôt du pâté. Quoique Cat Stevens que j'écoutais ou Neil Young à l'époque, c'était plutôt cool. Voilà. Mais c'était pas le genre de musique de mes parents, donc il y avait une espèce de conflit comme ça que je comprenais pas non plus.
Conflit générationnel.
Voilà, donc du coup, je m'étais fort
rencontré maintenant encore, hein, c'est quel drôle.
Oui, ça dépend. Moi, mes enfants m'ont fait découvrir Rammstein, par exemple. Ouais. J'adore ce groupe.
Voilà, parce que vous aviez les prémices déjà.
Ouais, voilà.
Led Zepp, c'est aussi voilà.
J'ai semé, je récolte.
Ah, c'est ça. Oui. Je suis pas sûr que si on vous fasse écouter du Jul aujourd'hui, vous soyez super ravis.
Je connais pas.
Bon, je vous ferai pas écouter.
Par contre, j'aime bien Delgré, par exemple, aujourd'hui. J'aime bien. Un Apple Tree, j'aime bien Pathomé, c'est un ancien, c'est un super copain aussi.
Donc on a écouté d'ailleurs le nouveau double album la semaine dernière dans les talents bretons. Alors on revient un petit peu, l'amour des mots justement, lui il est venu comment ? Même de la musique, comment vous vous êtes fait votre culture ?
La musique, je me la suis faite tout seul, avec les copains évidemment. Ouais. Voilà, j'ai pris un jour, on a pris une guitare et puis on a commencé à jouer comme ça.
Les cassettes en import, les vinyles en import,
Non, pas forcément. J'avais mon disquaire. À l'époque, j'habitais à Auray. J'avais mon disquaire. Ce disquaire s'appelait Lena. C'était l'endroit, the must quoi. C'était le l'endroit où on passait les samedis après-midi à écouter des disques et à en acheter aussi. Et je me suis fait comme ça, j'avais des copains, on était au pensionnat, je me rappelle, on écoutait le pop club de José Arthur en se glissant j'avais un transistor, je me rappelle, j'avais un pote, il était à plusieurs lits de moi et puis c'était du plancher par terre, donc on se mettait le transistor dans un chausson, écoute ça quoi.
Oui, d'accord.
Et donc on n'avait pas de portable à l'époque. Je parle de ça, c'était en 1884. Et donc on se balançait dans le chausson, le transistor qui passait sous les plumards des copains, qui entendait vaguement un truc qui passait.
Ouais, c'est drôle,
et puis
ça.
5 minutes après, le chausson revenait, écoute ça, c'est génial quoi.
Donc, génial. Voilà. On va continuer à faire votre connaissance, Jean-Luc. Mais auparavant, la technologie faisant, nous avons une intelligence artificielle qui nous accompagne. Elle a des questions pour nos invités. Elle s'appelle Glazig. Elle a une question pour vous.
Bonjour Glazig.
Quel est votre mot préféré ?
Alors,
alors, mon mot préféré.
Ouais, parce que évidemment, vous nous avez dit qu'il y avait déjà cet amour tout jeune des mots.
Tolérance.
Tolérance. Ah bah écoutez,
je... Au respect, j'ai le droit à deux.
Ah bah oui,
les allez, deux. Tolérance, ouais, et respect.
Ils vont bien ensemble en plus, on devrait jamais
travailler aussi. Ouais, j'en ai trois, allez, un tiercé, allez. Glazig va me pardonner.
Ouais, c'est un tiercé breton, ça finalement.
Voilà.
Hein, ça colle bien. On se retrouve dans quelques minutes sur France Bleu Armorique avec Jean-Luc Le Pogam.
France Bleu Armorique.
Are you drunk enough now to judge what I'm doing? Are you high enough to excuse that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. I said I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Écossais dans la place, c'est Calvin Harris avec Sam Smith sur France Bleu Armorique avec Promises.
France Bleu Armorique, quart de finale de Coupe de France avec le Stade Rennais.
Cette semaine dans le Distribil sur France Bleu Armorique, gagnez vos invitations pour le spectacle de Jérôme Commandeur le 5 mars prochain à Rennes. L'humoriste est de retour sur scène avec son spectacle Tout en douceur.
Bienvenue, merci beaucoup d'être là. Merci, ça me touche beaucoup et
Jouez aussi pour gagner des paniers gourmands de produits auvergnats, invités d'honneur des prochaines Tables et Dureux.
Miam miam.
Et si comme beaucoup d'entre nous, vous êtes aux côtés de l'AS Vitré, tentez de gagner vos places pour les quarts de finale de la Coupe de France. Mercredi 6 mars, Vitré rencontre Nantes avec la ferme intention d'écrire une nouvelle page de l'histoire du club. Tous avec les 100 et or. Le Distribil sur France Bleu Armorique, c'est le jeu du matin, complètement zinzin, à 7h20 et 7h40.
Cet été, la France accueille le meilleur du football mondial féminin. Du 7 juin au 7 juillet, vous allez vivre au rythme de la Coupe du Monde féminine de la FIFA. En famille ou entre amis, plongez dans une ambiance festive grâce aux 7 matchs qui se joueront à Rennes. Vos billets au Roizen Park à partir de 9 euros. Réservation sur FIFA.com.
Découvrez Irish Celtic, Spirit of Ireland. Un joyeux voyage au cœur de l'Irlande. 2 heures de musique, d'émotion et de claquettes explosives. Samedi 16 mars à 20h30, France Bleu vous invite à une représentation exceptionnelle pour 2 personnes au Casino de Paris. Pour vous, on sort le grand jeu. Le voyage et l'hôtel à Paris pour 2 personnes et les meilleures places pour le spectacle. Cette semaine, pour gagner vos 2 invitations VIP pour Irish Celtic, Spirit of Ireland, rendez-vous sur francebleu.fr.
France Bleu Armorique. France
Bleu. Et tous les après-midi dans Ça vaut le détour, on joue le grand jeu également pour l'invité de Yann Brialix. Aujourd'hui, Jean-Luc Le Pogam.
Ça vaut le détour, l'invité de France Bleu Armorique.
De retour sur France Bleu Armorique avec notre invité Jean-Luc Le Pogam. On va continuer à dérouler le fil de votre vie, Jean-Luc, pour en arriver jusqu'au Mange-Rêve, les Mange-Rêves, l'Enfer Blanc et le début d'une trilogie littéraire pour vous. On revient quand même un petit peu en arrière. On revient à l'époque où finalement l'école et vous, ça faisait pas trop bon ménage. À cette époque-là, vous vous imaginiez comment d'ailleurs
mais j'aimais, c'est pas que j'aimais pas l'école, hein. J'aimais bien.
Souvent, c'est le cas. C'est-à-dire que souvent, les gens qui se font virer, c'est parce qu'ils ont une autre manière de penser, mais ils aiment bien. C'est la manière dont on leur apprend qu'ils aiment.
Ouais, j'aimais bien les potes, j'aimais bien venir à l'école, j'ai été victime d'injustice aussi de la part de certains profs, des histoires sur lesquelles je reviendrai pas parce que j'ai voulu les oublier. Ouais. J'ai tiré, tu sais, on parlait de Daniel Picouli tout à l'heure qui m'a dit qu'un jour à 50 ans, il avait tiré à la chasse d'eau des cons. Et j'ai fait ça et c'est incroyable.
Bien. Ouais, c'est bien.
Vraiment, c'est génial. Ouais.
Ça allège, ouais. Ça allège le sac.
Voilà, donc je donne pas de nom.
Bon, mais en revanche, vous pouvez me dire ce que vous vouliez devenir, vous, quand vous imaginez ?
Non, j'avais envie d'être acteur de cinéma quand j'étais gamin. Et le médecin qui faisait passer les trucs médicaux scolaires, un jour, il m'avait demandé « Qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grand ?» Et j'ai dit « Je voudrais être acteur de cinéma. » Et le mec, c'était un gros mec, énorme, genre le Monty Python qui éclate, là, tu sais. Dans la... Et il est parti d'un fou rire, et ce jour-là, je me suis dit « Bon, jamais plus je dirai ça, quoi.
Ouais. »
Voilà. Ouais. Mais je l'ai gardé en moi, je ne suis pas acteur de cinéma.
Là aussi, petit en justice, c'est nul.
Ouais,
enfin.
Voilà.
Et j'imagine qu'il y a des enfants qui ont dit ça et qui le sont devenus.
Ouais, j'aurais dû lui répondre un jour, tu seras dans le Monty Python et t'éclateras dans un restaurant, hein, gros lard.
Encore faut-il qu'il ait la référence,
voilà.
Évidemment.
Ouais. Mais à l'époque, je ne pense pas que c'était sorti déjà.
Alors, je disais qu'il y avait plusieurs vies. Comment elles se sont tracées, ces différentes vies? Qu'est-ce que vous avez fait une fois que finalement, voilà, la période de scolaire est passée? Comment vous commencez dans la vie finalement?
Je fais du stop.
D'accord.
Je voyage,
ouais.
Et un jour, un directeur de banque s'arrête, sans blaguer, hein, c'est arrivé comme ça.
Choc des cultures, là, déjà.
Ouais, mais bon, moi, je cherchais du boulot, j'étais un peu dans la dèche, donc j'étais parti en stop, j'étais parti en Irlande, voilà. Voilà, et c'était à l'époque des Hunger Strikers, là, quand Margaret Thatcher faisait ce qu'elle faisait au parlementaire irlandais. Mm-hmm. Et donc, j'avais suivi des familles là-bas, ça me passionnait, j'avais envie d'en savoir plus, de savoir comment, déjà, comment on pouvait arriver à devenir comme ça, quoi. Je connaissais pas Ken Loach, j'ai découvert après.
Ouais.
J'ai découvert Au nom du père aussi bien plus tard. Ce film absolument fabuleux pour moi, qui est un film mythique d'ailleurs. Et donc, en revenant, il y a un type qui s'arrête. Il pleuvait, je me rappelle. J'avais mon sac à dos. Et il me demande ce que j'avais fait comme étude. Donc, je lui raconte un peu ma vie. Il me dit, si ça vous dit, si vous cherchez du travail, on peut se rencontrer à mon bureau tel jour, blablabla. Et c'était dans une banque.
Incroyable, ça.
Ouais, voilà. Et moi, j'ai toujours cru aux rencontres, mais je crois que c'est les rencontres qui m'ont façonné finalement. Ouais. J'ai rencontré aussi des grenades en stop.
Mais ça façonne aussi.
Voilà, ça façonne, on en sort toujours grandi.
C'est clair.
Voilà.
Alors, la banque, c'est...
Moi, mais ça n'a pas duré longtemps.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Je vous vois pas banquier. Enfin, avec tout le respect que je peux avoir pour la profession par ailleurs, mais...
Moi non plus, je me voyais pas, mais j'avais besoin de,
vivre.
Ouais. Et je tombe sur cette opportunité, je la saisis, je fais 4 ans, et puis je commence...
T'as commencé un peu aux jointures? Non,
ça coinçait. Ouais, enfin c'était marrant parce que j'allais bosser à Watt le vendredi soir et je dormais à l'hôtel et je faisais la banque dans la mairie. J'ai vu des Wattais, j'étais super bien. C'est pareil, c'est comme à l'école quoi. J'étais bien avec les gens. Et mais c'était le boulot qui m'a vite gavé. C'est-à-dire que quand on voyait par exemple un pêcheur qui arrivait pas à finir le mois et qui arrivait donc pas à remplir son prêt, puis qu'il fallait l'engueuler, qu'il fallait le menacer, etc. Ouais. Un jour, il y en a le directeur de la banque du bureau duquel je dépendais m'est venu me dire voilà, un tel faut qu'il paye parce qu'on va lui confisquer son bateau. Je dis mais j'essaie d'expliquer maintes fois que ça il pouvait pas payer. Et donc le type est venu à la banque, il m'a dit regardez bien comment on fait. Donc il s'est assis à ma place derrière le bureau, et quand le pêcheur est arrivé, il avait des mains comme des raquettes de tennis. Je me rappelle, je ne dirai pas son nom non plus, s'il m'entend il se reconnaîtra. Et donc l'autre a commencé à jouer les méchants canards, et puis le pêcheur s'est appuyé sur le bureau, j'ai vu ses deux mains comme ça, et il a dit au directeur, t'auras tes thunes quand j'aurai du poisson. Il est parti. Il a même pas claqué la porte, il est parti. Et du coup, ce jour-là, je me suis dit, bon, ce boulot-là, c'est vraiment pas pour moi.
Il n'y avait pas justement ce côté social que vous aimez tant. Quand je dis social, c'est le lien, l'humain, et puis le respect qu'on a de l'humain.
Et moi, j'étais bien, je faisais de la voile, je suis passé des dizaines de fois à Watt après. J'avais toujours mon petit emplacement réservé avec les péchous, c'était cool, quoi. Ouais, puis on partait le soir, je ne devrais pas le dire, mais après tout... Il y a prescription. Oui. On allait faire les fous dans les bistrots de Lille. C'était bien, quoi.
Bah ouais, c'est la vie.
Je veux dire, en tant que banquier.
Bien sûr, ouais, ça devait être rigolo.
J'avais la cravate sur la tête
en guise de serre-tête. Voilà. On va se retrouver dans quelques minutes. On va voir un petit peu la suite. Meglazig est toujours avec nous. Elle a de nouveau une question pour vous.
Quelle est votre occupation préférée?
Ah bah oui, parce que quand on aime plein de choses, il faut parfois se concentrer sur une seule. Est-ce que vous avez une chose qui vous occupe et qui...
Occupation, ça veut dire hors boulot, quoi.
Ouais, ou ça peut être boulot si vous considérez ça comme...
Je pratique la musique avec des potes dans un groupe qui s'appelle Flying Sausages, qui est aussi la partie d'un autre groupe qui s'appelle Sakara.
Ouais.
Qui est sur la région de Vannes, et puis voilà, on passe beaucoup de temps ensemble, j'adore être dans leur studio, et ça se passe très bien.
Et ben voilà, ça c'est une belle occupation, et on verra que ça a un lien évidemment également avec l'écriture, en tout cas, on ne s'inspire bien que de ce qu'on connaît bien, on va le voir. On se retrouve dans quelques minutes avec Jean-Luc Le Pogam.
France Bleu Armorique.
Gabi, Alain Bachung, avant de retrouver dans les prochaines minutes l'invité de Yann Brialix, Jean-Luc Le Pogam.
France Bleu Armorique, quart de finale de Coupe de France avec le Stade Rennais.
Apache.bzh, invité des talents bretons cette semaine.
Tu mets ton pantalon car tu n'as pas sommeil.
Tu mets ton pantalon car tu n'as pas sommeil.
Tu vas monter le son car tu n'as pas sommeil. Tu cherches tes compagnons, des coureurs de jupons.
Quand j'étais jeune, je faisais du rock, je faisais de la batterie,
ouais.
Je faisais du reggae. J'aimais beaucoup le côté dansant des Fesnoz. Mais après, par exemple, en Fesnoz, je m'ennuyais un peu parce que je crois que ça manquait de spectacle, il manquait de son, il manquait de basse.
D'accord.
Et je crois que les textes aussi, quand ça parlait toujours des princesses, des palais et puis du rossignol qui chante, c'était un petit peu tristoun. Et je me suis dit, je vais mettre du son derrière parce que j'aime le son en fait. J'adore quand ça pète.
Tu n'as pas sommeil car tu chantes toute la journée.
Tu n'as pas sommeil car tu es carrément clunqué. Tu n'as pas sommeil car tu dors toute la journée.
Retrouvez Apache.bzh tous les jours sur France Bleu Armorique dans les talents bretons.
On kiffe les vibrations, les basses et le son.
Justement, c'est ça. Non mais attends.
En France, on aime débattre de tout. Discuter, échanger, confronter nos points de vue sur les sujets d'aujourd'hui comme ceux de demain. Avec le Grand Débat National, tous les avis comptent. Vous avez jusqu'au 15 mars pour participer près de chez vous ou sur granddebat.fr.
Le Grand Débat National. Transformons ensemble vos propositions en solutions.
France Bleu Armorique.
C'est quasiment l'été, vous l'avez constaté, avec beaucoup de soleil depuis quelques jours et une douceur particulièrement exceptionnelle aujourd'hui. J'en bafouille de joie. 16 degrés sur la région de Pléboul, on est dans les Côtes d'Armor, 17 sur Groix et Lorient. On monte rapidement avec 20 degrés à Fougères, à Saint-Malo, à Redon, à Loudéac, 21 degrés à Dinard, Saint-Aron, du côté de Lamballe et puis également 21 degrés du côté de Loc-Miné, 22 degrés relevés actuellement à Saint-Brieuc, Guingamp et Lannion. Les nuages vont arriver cette nuit. Les températures seront encore assez douces cette nuit, entre 6 et 10 degrés.
L'infotrafic avec Mutualia. Complémentaire santé et prévoyance pour les entreprises et les professionnels. Rendez-vous sur mutualia.com.
Les conditions de circulation sur la nationale 166 dans le sens Plo-Hermel vers Vannes à Saint-Nolf juste avant d'arriver donc à Vannes. Attention, il y a un véhicule en panne, n'est pas n'importe quel véhicule, c'est un poids lourd donc qui peut gêner la circulation, évidemment vous surprendre. Les secours sont informés, le véhicule est signalisé, mais soyez prudents sur cet axe. Ailleurs, eh bien ça circule pour l'instant normalement, hormis quelques zones de travaux ici ou là. Vous pouvez nous en faire part d'ailleurs de ces zones de travaux si vous en rencontrer quelques-unes. C'est bien de partager les infos pour tous les automobilistes. Ça se passe au 02 99 67 35 35. On fait la route ensemble.
France Bleu Armorique.
Retour à cet échange entre Yann Brialix et Jean-Luc Le Pogam, l'auteur de Sarzeau et l'invité de Ça vaut le détour.
Ça vaut le détour, l'invité de France Bleu Armorique.
Toujours avec notre invité Jean-Luc Le Pogam, on vous a laissé à la banque, ou du moins sur le bistrot de Lille, après la banque. Vous avez toujours consommé avec modération, d'ailleurs on tient le CDD pour le CSA, évidemment. Dites-nous, comment ça s'est passé justement après la banque? Parce que on a bien compris que c'était pas un épanouissement foufou, quoi. Hein.
Non, j'ai travaillé, après j'ai fait divers petits boulots, j'ai travaillé dans la vente de disques, dans la vente de planches à voile.
Donc on va vers la passion par contre. Petit à petit,
plus ou moins, c'est vrai. Merci de me le rappeler, c'est bien.
Il y a un truc qui se déclenche.
Je suis redevenu normal, en fait. Et non, je crois que le temps fait des traces et voies pour nous. Ça, j'en suis convaincu. Les rencontres aussi énormément. Et puis, je suis rentré dans l'enseignement parce que j'avais fait aussi des camps de vacances quand j'étais avec des ados, etc. Mes parents ont travaillé dans les centres de vacances pendant l'été. Et j'aimais bien cette ambiance, j'aimais bien. Et donc, je suis devenu moniteur, après, en parallèle, je suis devenu enseignant. Ça a duré le temps que ça a pu durer, pareil. C'est-à-dire que j'étais content d'y aller, je faisais énormément. Tout mon travail était assis sur le théâtre, l'écriture de pièces de théâtre tout le travail de l'année était là-dessus.
Mais j'imagine qu'en plus vous aviez à cœur de ne pas être le professeur que vous aviez eu, vous, quoi.
Voilà, par exemple. Hein? On a essayé, bon, c'est pas toujours facile, hein. Il y a des choses qu'on regrette avec les années qui sont passées, il y a des choses dont on est très fier, et il y a des choses que le système vous fait faire, et notamment quand je suis parti, je me suis rendu compte à quel point ce travail m'avait transformé, c'est-à-dire cette autorité qu'on n'a pas en soi et qu'il faut avoir pour tenir une classe, par exemple. Et puis, je sais pas, je me suis posé énormément de questions pendant de longues années parce que, à un moment donné, j'étais tellement en opposition avec le système que j'étais carrément hors la loi.
Ouais.
Et l'année d'après, je suis carrément dans j'étais carrément dans le système parce qu'il y avait un ministre qui avait pondu un autre truc et puis voilà. Et puis, à un moment donné, on se pose beaucoup de questions. Ouais. Et arrive l'heure où on claque la porte parce que justement l'écriture et la radio et voilà.
Ah, donc finalement, à chaque fois, voilà, il y a des tentatives, je dirais, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ça, mais de se normaliser dans les clous de la société.
Et puis, pas vraiment. Dans l'enseignement, j'avais vraiment envie. Je savais. C'est le pire, c'est ça. C'est quand on sait que ce qu'on fait va porter des bons fruits, que ça va marcher, que ça marche, parce qu'on en a les preuves au fil des années. Et que tout d'un coup, là-haut, il y a quelqu'un qui prend un nouveau programme, un nouveau, qui ça s'appelle les textes officiels, voilà, qui va pas du tout dans ce sens-là, qui va tout foutre en l'air.
Qu'est-ce qu'on rencontre beaucoup d'enseignants tout au long de leur carrière, voilà, c'est terrible, ce que vous dites, c'est vrai.
On rajoute là-dessus une peau de vache d'inspectrice qui fout tout le monde en l'air. Et qui me fait me dire à un moment donné, bon, c'est bon, je me tire, il faut que je me tire parce que je vais lui mettre un pain. Et donc, ça va mal se terminer forcément pour moi. Je peux plus faire ce que je pensais qui était bon et ce qui était prouvé par les résultats bon. Ouais. Donc, je suis en totale opposition à tout ça. C'est comme avec la banque, je me tire.
Ouais, c'est un costume qui était plus taillé pour vous, quoi. Trois.
C'est-à-dire, j'étais bien au début, puis ça a évolué d'une façon telle et ça continue.
Et vous êtes reparti vers la passion.
Ouais, à l'époque c'était bon, je bossais sur une radio. Mmh. J'avais toute une équipe avec moi, ça fonctionnait super bien et donc je me suis donné là-dedans l'écriture. Alors je travaillais aussi pour un salon pour Quédébul à Saint-Malo.
Ouais.
Et de fil en aiguille, je rencontre un auteur qui me dit putain, mais t'as vu tes critiques, parce que je critiquais donc sur la radio, je critiquais de la bande dessinée et du rock.
Un homme heureux.
Voilà. Ouais, je ne pouvais pas rêver de mieux.
C'est clair, ouais.
Et donc, cet écrivain qui s'appelle Jean Fayard me dit ouais, t'as vu tes critiques, mais tu devrais te mettre à écrire. Et puis c'est parti comme ça.
Quoi. C'est parti comme ça, en fait. Ouais. Là aussi, de nouveau, d'une rencontre.
Voilà.
On va...
L'entrée dans Quédébul, c'est une rencontre aussi, parce que j'allais à ce festival comme j'allais à Angoulême, comme je venais au Transmusical de Rennes pour des interviews, des concerts, des rencontres avec des auteurs. Et en partant de Quédébul, cette première année-là, on me demande ce que j'en avais pensé. Alors je dis ouais, voilà, il y a peut-être un truc là dans un endroit où ça pourrait être mieux, ça pourrait être plus vivant. 4 mois après, on m'appelle, me dit est-ce que tu veux prendre cet endroit en main, quoi. Pof, voilà, je me suis permis de critiquer parce qu'on m'avait demandé. Et quelquefois, on se dit ouais, je devrais pas dire parce que si, parce que ça. Moi, je suis plutôt un peu cash quand même.
Ouais, c'est bien.
Et enfin, j'essaye d'y mettre l'effort maintenant. J'ai pas toujours fait. Et du coup, ils m'ont rappelé pour bosser avec eux, et puis voilà, des rencontres, voilà.
Alors, on va parler justement de l'écriture dans une poignée de minutes. Auparavant, Glazik, toujours. Les questions.
Elles me manquent.
Qu'est-ce qui aujourd'hui vous plaît et vous attriste dans l'humanité ?
C'est un premier pas vers d'ailleurs le livre dont on va parler, cette question. Qu'est-ce qui vous plaît et vous attriste dans l'humanité aujourd'hui ?
Qu'est-ce qui me plaît ? Que des gens se bougent enfin.
Ouais. Se bouge en quel sens ?
Se bouge parce que les gens en ont marre.
Ouais.
Et ils ont décidé de sortir de leurs égouts et de leur dégoût aussi pour se manifester, pour dire on existe, on a envie de vivre autrement que dans la misère, on n'est plus à l'époque de Zola. Ce qui m'attriste, c'est la manipulation qu'en font certains médias.
Ouais.
En faisant croire que ces gens-là adhèrent au parti d'extrême gauche, au parti d'extrême droite, c'est-à-dire que leur mouvement a été récupéré. Voilà, c'est ça qui m'attriste.
Eh ben écoutez, on garde ça. Ça va nous faire une magnifique entame pour parler de votre livre dans quelques minutes sur France Bleu Armorique.
France Bleu Armorique, ça vaut le détour.
De regarder passer ma vie, ni de bien comprendre où mes 20 ans sont partis. Pas eu le temps de dire au revoir à un ami, pas eu le temps. pas eu le temps de bien préparer mes bagages pour être prêt à regarder sur mon visage toutes les marques que le temps laisse à son passage. Pas eu le temps. Il est trop lâche, il va trop vite, le temps passe et me précipite vers un homme que je ne suis pas prêt à reconnaître déjà. Il est trop lâche, il va trop vite, le temps passe et me précipite vers un homme dont je ne veux pas dire que lui, c'est peut-être moi. Pas eu le temps d'avoir su apprendre à aimer. Me souvenir de toutes les peaux que j'ai touchées, ni de savoir s'il y a des cœurs que j'ai brisés. Pas eu le temps. Pas eu le temps de faire le tour de mon quartier. C'était toujours plus loin que je voulais aller. Pas eu le temps de voir ce que j'ai pu rater. Pas eu le temps. Il est trop lâche, il va trop vite, le temps passe et me précipite vers un homme que je ne suis pas prêt à reconnaître déjà. Il est trop lâche, il va trop vite, le temps passe et me précipite vers un homme dont je ne veux pas dire que lui, c'est peut-être moi. On ne peut que regretter ce qu'on aurait dû faire. Moi je referais tout si c'était à refaire. Oui tout si c'était à refaire. Il te donne et il te reprend chaque seconde de son temps. Pour pouvoir vivre une minute, il faudra rendre celle d'avant. Il te donne et il te reprend chaque seconde de son temps. Pour pouvoir vivre une minute, il faudra rendre celle d'avant. Mais le temps passe. Jour après jour dans une danse où chaque pas est une chance. Mais plus il passe et plus je l'aime. Ce temps qui joue et qui m'entraîne vers celui que je voulais être. Avec ses rêves plein la tête. Il est trop lâche, il va trop vite. Le temps passé me précipite vers un homme que je ne suis pas prêt à reconnaître déjà. Il te donne et il te reprend chaque seconde de son temps. Pour pouvoir vivre une minute, il faudra.
Pas eu le temps. Patrick Bruel, il est en tournée en ce moment. Il est à Lille ce soir. Ça fait un peu loin pour y aller, peut-être, si vous êtes en Bretagne. Mais vous pouvez le voir dans notre région le 25 avril à Lorient. Il y aura 3 dates à Rennes également, le 10 et le 11 mai, un petit peu plus tard à l'automne. Le 17 octobre, ça vaut le détour. L'invité aujourd'hui était écrivain. Il s'appelle Jean-Luc Le Pogam. On le retrouve pour un dernier rendez-vous aux côtés de Yann Brialy.
Ça vaut le détour, l'invité de France Bleu Armorique.
Retour et dernier rendez-vous avec Jean-Luc Le Pogam. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet de votre actualité. Jean-Luc, c'est l'écriture désormais votre métier. Est-ce que c'est que ça d'ailleurs? Est-ce que vous considérez que vous êtes écrivain à temps plein ou est-ce que vous avez d'autres...
Dans ce travail, en fait, il y a plein de petites portes qui s'entrouvrent, comme celle des salons dans lesquels on va dédicacer des livres et encore faire des rencontres.
Ouais.
Et il y a aussi... je garde finalement à côté avec le scolaire... Dans le sens où j'interviens dans beaucoup d'écoles, de collèges ou voire d'universités avec des étudiants. Et voilà, c'est un grand boulot qui permet, ce côté du travail me permet de sortir de ma bulle. Mmh. Et d'aller rencontrer des gens, d'aller aussi échanger beaucoup.
Vous nourrir.
Nourrir et nourrir les autres. C'est le simple fait de l'échange. Quoi.
Et si finalement ce métier qui est le vôtre aujourd'hui, c'était pas le résumé de ce que vous êtes, c'est-à-dire de la passion, de la transmission.
Ouais. Hein, finalement, c'est ce que j'ai cherché tout le temps sans le savoir vraiment.
Et puis finalement, la rencontre avec les autres. Alors finalement, la trilogie que vous avez débutée avec Les Mange-Rêves et dont on va parler maintenant. Là aussi, il y a une espèce de concentré de Jean-Luc Le Pogam dedans, avec plein de choses et de valeurs qui vous sont rattachées. rattachés. Si je vous demandais de faire le pitch de cette trilogie.
Alors, d'abord, avant cette trilogie, il faut savoir qu'il y a quand même eu d'autres... Je m'adresse aussi aux enfants avec un album qui s'appelle Bob Leloup, que j'ai écrit avec Ronan Badel, qui est sorti chez Glénat, ouais. Qui est aussi un album dans lequel il y a un grand message, c'est-à-dire le respect, la tolérance, le droit à la différence. Et j'ai fait
tellement difficiles à défendre en ce moment, c'est incroyable. Voilà. Heureusement qu'il y a des défenseurs.
Il ne faut pas jeter l'éponge, jamais baisser les bras.
Non, surtout pas, c'est là qu'il faut être là.
Ouais. Et puis j'en ai fait un autre avec Nono, qui s'appelle Le joli petit village sans nom, qui n'existait pas. Qui est un album jeunesse aussi à propos des migrants. C'est-à-dire que ça se passe dans un petit village au bord de mer où tout est blanc et même les maisons sont blanches, les nuits sont blanches, mais ils ont mis quand même des vigiles, on ne sait jamais. Ils ont peint le panneau d'agglomération en blanc au cas où quelques étrangers viendraient aérer dans le coin. Et malheureusement pour eux, c'est pas par là qu'arrive le danger, mais par la mer. C'est-à-dire qu'il y a... Alors c'est que des poules qui habitent dans ce village, des poules, des coqs, des poussins blancs forcément. Et les maisons sont blanches, l'école est blanche, les voitures, les routes, tout est blanc. Hein. On voit que du dessin en noir, en fait. Et donc, un jour, il y a un bateau complètement déglingué qui arrive sur la plage. Et puis, dedans, il y a des poules de toutes les couleurs, avec un renard qui lui, dès que le bateau s'échoue sur la plage, il prend une poule sous chaque bras, puis il se barre, c'est le passeur. Et les poules, donc, s'installent sur la plage, font du feu, installent des tentes, etc. Puis, ils se hasardent jusqu'au village. Et puis là, ça va être de la pagaille, quoi. Parce qu'on peut même imaginer que dans ce village blanc, on n'a jamais vu... On ne sait même pas que la couleur existe, en fait.
On a peur, mais on ne sait pas pourquoi.
Voilà. On a peur, mais on ne sait pas pourquoi.
Alors, ça, c'est effectivement ces ouvrages pour jeunes publics. Là, c'est un ouvrage tout public, parce que même les plus jeunes, en tout cas les adolescents, à partir de 10 ans, vont prendre plaisir à lire ce livre, « Les Mange-Rêves ». Il est... Alors je vous ai demandé le pitch, je vais vous laisser le faire parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même.
On est en 2034, le pouvoir... Alors il y a eu un vote, les gens n'y sont pas allés forcément. Enfin je veux dire, non c'est pas forcément.
Ça rappelle quand même vachement des choses.
Ah oui voilà. Sauf que là c'est passé. Et il est trop tard pour revenir en arrière, pour se dire j'aurais dû, mais c'est un peu dans dans cette situation que se trouvent les Anglais en ce moment. Enfin certains. Et donc, le pouvoir prend la main, cercle l'Europe d'un mur électromagnétique en l'espace de quelques secondes. C'est un peu plus rapide que la muraille de Chine.
Ouais.
Et donc, en l'espace d'un instant, il gère le climat aussi. Et l'Europe se retrouve transformée en univers carcéral glaciaire. Et les forces en marche, c'est-à-dire les milices, ont pour rôle d'éradiquer la culture. Voilà, donc tout ce qui est peintre, sculpteur, musicien, écrivain, et j'en passe, tout ce qui touche aux arts, en fait, tous les marchands de rêves font partie des gens qui sont raflés, mis dans des trains, et pour l'Ouest, envoyés à tombe mort. Dedans, il y a donc trois ados, dont une fille dont le père est dans la milice, dont le beau-père est dans la milice, et deux garçons, Thibaut et Iwan, qui eux sont potes à la vie et à la mort, et dont les parents ont été enlevés.
Sont artistes.
Voilà, les parents sont le père et la belle-mère d'Iwan, ils sont reporters, mais quelque part c'est aussi des mouchards par rapport au gouvernement. Et les parents de Thibault sont des libraires, donc des marchands de rêves. Donc ils ont été mis dans des trains et les gamins s'en aperçoivent, ils suivent un cours de guitare avec un musicien anglais qui habite pas loin de chez eux. Et puis un jour, voilà, il y a une descente de miliciens pendant le cours et il y a le feu au moulin. Enfin bref, le musicien est fait prisonnier, et les deux gamins arrivent à se tirer, et ils s'aperçoivent à ce moment-là que la grande machine est en marche. Donc ils vont appeler leur grand-père, qui habite pas très loin, qui était un ancien type de la DST, et ensemble, enfin je passe les détails, ils vont mettre en marche la contre-machine, qui va partir en fait à la poursuite du train. Et alors je répète quand même qu'on est à entre moins 20 et moins 50.
C'est ça, que donc, tout est adapté aux conditions, c'est ça qui est drôle, même les Bretons sont adaptés aux conditions.
Ouais, on est dans la neige, on est dans la glace, et puis on n'a plus des catamarans, mais ils vont poursuivre le train sur des cataskis.
Ouais.
C'est-à-dire des catamarans sur ski, et en ayant eux-mêmes derrière eux une trentaine, enfin c'est à géométrie variable, ils sont quelquefois 30, quelquefois 60, quelquefois 20, des types, des milices qui sont mêlés avec des longs manteaux. Les longs manteaux, c'est des errants, en fait, qui rendent service à la police contre de la drogue et de l'alcool, voilà.
C'est terriblement possible, entre guillemets.